Le temps, pour moi, évoque toujours beaucoup plus l'avenir que le passé. Je pense que, bon, ceux qui me connaissent savent par exemple que j'aime pas tellement les photos. Tu sais bien que j'oublie toujours un appareil photo et des trucs comme ça. Ça m'intéresse pas vraiment. Je crois que ce qui est important, plus dans l'avenir, c'est effectivement toujours tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut apprendre, tout ce qu'il y aura de nouveau, toutes les surprises qu'on pourra avoir. Et ça, je pense que j'ai toujours eu cette idée un petit peu d'orienter ma réflexion sur le temps plutôt vers l'avenir, à laquelle s'adjoignait également quelque chose quand j'étais gamin, qui était une angoisse sur le terme de la vie, une angoisse de mort. Et une façon de lutter contre cette angoisse de mort, ça a été pour moi de privilégier de donner beaucoup d'importance à une activité humaine qui s'inscrit tout à fait clairement dans le temps, qui peut pas exister sans le temps, et qui est la musique. Et le temps de la musique est un temps qui a une épaisseur. C'est pas un temps instantané. D'abord, un son, de toute façon, c'est une vibration, il a une certaine fréquence, sa hauteur est due à cette fréquence, et on ne peut pas l'entendre de façon instantanée. Et non seulement, alors ça c'est, je vous ai dit, hein, c'est tout à fait personnel et subjectif, hein, mais non seulement c'est quelque chose que l'on a dans l'immédiat avec un petit peu de passé pour avoir de l'épaisseur, mais il y a toujours aussi une sorte de futur immédiat. On est tout le temps, quand on écoute avec attention quelque chose, on est toujours en train également de vivre un petit peu dans l'avenir. Alors bien sûr, on se fait prendre à contre-pied de temps en temps, puis heureusement c'est ça qui est délicieux, parce que sinon ce serait pas très drôle de ne pas se faire prendre à contre-pied, mais. Pour moi, dans la façon que j'ai de concevoir le temps, je lui donne toujours une certaine épaisseur, hein. En quelque sorte, mon temps quotidien, il est du côté d'Héraclite, hein. J'imagine pas, et c'est tout le temps dans le mouvement, j'imagine pas, d'ailleurs je connais pas beaucoup de gens qui puissent imaginer que le temps s'arrête. Il y a des nouvelles, il y a des écrits qui imaginent justement l'arrêt du temps. Il y a Jean Bernard qui a écrit un recueil de petites nouvelles, Le jour où le temps s'est arrêté. En fait, on se rend compte que c'est pas du tout le temps qui s'arrête, c'est le mouvement qui s'arrête, mais le temps continue à exister. On voit mal un récit sans temps. Alors, bon, écoutez, voilà, c'est tout. Maintenant, j'en arrive au thème de ce que je voulais raconter proprement. Donc, en tant que mathématicien, pour l'instant, si j'ose dire, je suis plutôt du côté de Parménide. Ça ne me dérange pas de concevoir des tranches du temps complètement instantanées. Alors, je vais essayer d'organiser un peu ce que je voulais vous dire sur trois directions. Il y a d'abord le temps et les objets mathématiques. Comment les mathématiciens modélisent le temps, comment le temps suggère des constructions mathématiques. On reviendra d'ailleurs sur ce thème à la fin. Dire quelques mots sur la flèche du temps, pourquoi on se souvient mieux de ce qui se passera hier que de ce qui s'est passé demain, et puis le temps et l'espace, Newton, Einstein, et puis demain, quelle physique, quel temps. Alors, objet mathématique pour modéliser le temps, je vais en prendre deux, il n'y en a pas forcément tant que ça, hein. Je vais en prendre deux, je parlais un peu d'un espace de dimension 1, assez rapidement, et puis ensuite de ce qu'on peut faire en proba dans les processus stochastiques. Bon, enfin, je ne vais pas utiliser de trop grands mots. Donc, dans le repérage usuel, le temps est caractérisé essentiellement par un nombre. Par rapport à une origine du temps, que l'on se donne arbitrairement, hein, on mesure une durée à l'aide essentiellement d'une unité et puis d'un nombre. De même que sur Terre, si vous voulez, on repère la position d'un point par deux nombres, la latitude et la longitude, ou bien, je sais pas, dans le système des villes américaines, vous repérez par rapport au centre-ville, si vous êtes à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, et à quelle distance vous êtes par rapport à ces deux directions-là, à quelle distance vous êtes du centre-ville. Bon. Donc, essentiellement, le temps, on le voit, la première approximation qu'on en a quand même, c'est de le voir comme un temps linéaire. Alors, linéaire, c'est comme un espace de dimension 1. Maintenant, quand on dessine des espaces de dimension 1, il y a plusieurs façons. Il y a essentiellement ceux qui bouclent et puis ceux qui ne bouclent pas. Alors, là également, dans la conception, quand on les. Tout se trouve, hein, dans différentes cultures. On peut trouver des temps cycliques, on peut trouver éventuellement avec un algorithme pour sortir du cycle, et puis des temps linéaires. Le temps de la physique, lui, est clairement un temps qui est linéaire, tout simplement parce qu'il y a à la base un principe de causalité. qui est tout à fait au fondement même de la physique. Et il y a des causes et il y a des effets, et on ne peut pas inverser les causes et les effets, et on ne peut pas remonter dans le temps et tuer son père avant d'avoir été engendré. Il y a un certain nombre de situations comme ça que... Alors, cela dit, quand on a modélisé le temps, même par un espace de dimension 1, disons, qui boucle pas, il y a encore un certain nombre de problèmes. Est-ce que le temps est fini ou infini? Est-ce qu'il y a un sens de parcours privilégié du temps? Est-ce qu'il est continu? Est-ce qu'il est dense? Est-ce qu'il est discret? J'aurais peut-être un mot sur ces différentes choses-là. Alors, je voudrais poursuivre la visite des relations qu'il peut y avoir entre le temps et les objets mathématiques avec un petit coup d'œil sur les processus stochastiques. C'est un grand mot, mais je vais dire simplement de quoi il s'agit. Essentiellement, c'est de voir comment évoluent les paris au cours du temps. On va prendre un jeu relativement simple. Vous avez un jeu de cartes, disons un jeu de 32 cartes, et puis vous tirez les cartes une à une, sans remise. Et puis, à chaque tirage de carte, ou au début, vous pouvez miser, et selon la carte qui sort, vous gagnez quelque chose ou vous perdez quelque chose. Bon. Alors, bien sûr, on exclut dans le phénomène de mise ce qui peut être un délit d'initié, c'est-à-dire qu'on ne mise pas en sachant ce qui va se passer ensuite. Hein? Bien. Alors, à partir de ce moment-là, si on regarde la mise initiale, de toute façon, bien sûr, tous les tirages que l'on peut obtenir sont très nombreux. Il y a beaucoup de tirages que l'on peut obtenir, comme ça, les successions de cartes que l'on peut voir apparaître. Mais si on regarde la mise initiale, de toute façon, elle ne va pas dépendre d'aucun de ces tirages. Donc forcément, la mise initiale est une fonction constante. Si vous imaginez tous les tirages possibles, sur tous les tirages que vous avez, la mise initiale, c'est quelque chose qui est constant. Puis après, si vous avancez un peu plus dans le jeu, si vous avez déjà tiré une carte, vous avez bien sûr, c'est plus du délit d'initié, pour jouer sur la deuxième carte, vous pouvez effectivement prendre en compte ce qui est sorti au premier tirage. Ce qui signifie que vous avez quand même un petit peu plus de marge de manœuvre, mais encore pas énormément. Vous avez un peu plus de marge de manœuvre, vous pouvez concevoir des mises qui sont un peu plus variées. Essentiellement, il y a 32 possibilités. Vous pouvez utiliser la même valeur sur plusieurs mises selon le résultat de plusieurs cartes, ce n'est pas interdit, mais vous avez au plus 32 valeurs possibles. Et puis vous imaginez comme ça qu'au fur et à mesure que l'expérience se poursuit, la mise va être quelque chose qui est en quelque sorte une fonction qui est de plus en plus fine. Donc ça, c'est une façon de modéliser en quelque sorte le temps dans ces phénomènes aléatoires successifs, dans les processus. D'ailleurs, le processus donne bien cette idée d'aller de l'avant et stochastique d'être quelque chose d'aléatoire. C'est bien une façon en quelque sorte de modéliser le temps en définissant finalement sur un espace, de regarder les classes de fonctions qu'on peut y définir, et vous pouvez mesurer le temps en quelque sorte d'après le grain que vous pouvez donner aux fonctions permises. Plus les fonctions permises sont fines en quelque sorte, plus ça mesure l'état d'avancement où vous êtes dans le jeu. Bon, je vais arrêter là pour cette chose-là. Je voudrais passer également sur autre chose, sur le temps dans l'autre sens, c'est-à-dire là, c'était la modélisation utilisée en quelque sorte des objets mathématiques pour modéliser le temps. Dans l'autre sens, c'est de savoir comment est-ce que le temps peut conduire à la création d'objets mathématiques. Alors, il y a un exemple, l'archétype des exemples sur lequel je ne vais pas m'étendre très longtemps. Énormément de choses à en dire, mais qui sont peut-être pas liées directement avec cette question de temps. C'est le calcul différentiel qui a été créé par Newton, et c'est pas par hasard qu'il a été créé par Newton et par Leibniz à la fin du XVIIe siècle. Alors en fait, je le cite que pour mémoire. En fait, bon, on peut donner une présentation purement analytique, c'est parfois comme ça qu'il est enseigné, ou une présentation analytico-géométrique, mais il me semble qu'à peu près systématiquement, j'ai pas vraiment regardé dans tous les manuels, mais il me semble qu'à peu près systématiquement, on introduit aussi une dimension cinématique quand on parle de dérivés. On donne toujours un exemple de dérivés, disant aux gamins et aux gamines, des dérivés, vous en avez déjà vu, c'est un contour, c'est un compteur de vitesse, qui vous mesure justement une vitesse instantanée, qui mesure une dérivée, et donc c'est clairement des questions mathématiques qui ont été inspirées par le temps, ça c'est tout à fait clair. Alors, une chose qu'on peut mentionner ici, c'est que le modèle de temps qui est sous-jacent pour faire cette construction, est un modèle de temps qui, a priori, n'est pas discret. On a besoin de passer à la limite, de faire tendre des quantités vers zéro. Alors, il peut être continu ou totalement discontinu, mais en tout cas, il faut qu'il soit dense, il faut qu'on puisse tendre vers zéro. Bien entendu, on a également inventé des modèles discrets, des calculs des différences finies qui permettent ce genre de modèle. Je voudrais donner un autre exemple de construction mathématique où il n'est pas tout à fait clair que le temps ait vraiment joué dans un rôle important dans sa création, encore que dans la terminologie employée, on le retrouve, c'est la modélisation des entiers par Peano. Alors la modélisation des entiers, c'est d'essayer de formaliser ce que peut être, c'est un peu la base des mathématiques, comment est-ce qu'on peut décrire un ensemble qui est les propriétés des entiers naturels. Les entiers naturels, c'est 1, 2, 3, 4, 5, une sorte de suite que l'on a comme ça. Alors, ce que dit Peano, c'est ceci. Il commence par dire, on a une famille de points. Alors bon, cette famille de points, ça peut être un peu n'importe comment, mais il y a toujours une relation de successeur. Tout point a nécessairement un successeur. À chaque point, on peut faire correspondre un successeur. Donc ça, c'est la première étape. Tout point a un successeur. Alors, ça permet encore des tas de choses variées. Ça permet des lignes comme ça qui continue n'importe comment, ça permet des points qui sont en cercle, ça permet des arbres aussi, ça permet des tas de configurations possibles. Ça ne permet pas une configuration avec un arbre qui repart dans l'autre sens, parce que ce que l'on veut, c'est que chaque point ait un successeur bien déterminé. Ensuite, on ne veut pas avoir quelque chose qui soit infini comme ça, il y a le nombre 1, qui est quand même un nombre un peu particulier, qui n'a pas de successeur, alors que tous les autres en ont. Donc, ce qu'on rajoute également, c'est qu'il y a un point qui n'a pas de, d'antécédent, qui n'est le successeur de personne. Donc, alors par exemple, dans ce genre de configuration, vous en avez plusieurs ici, mais vous pouvez imaginer de mettre quelque chose qui boucle. Bon, on a encore quelque chose. Il y a encore pas mal de possibilités. Alors, l'étape suivante, pour éviter justement les choses qui bouclent ou les choses qui ont des structurations en arbre comme ça, c'est de dire que si deux éléments ont le même successeur, ils sont égaux. Alors là, ça commence à verrouiller assez bien. Ce genre de possibilité, ça n'existe plus. Donc démarrer puis ensuite se mettre dans un cercle, ça marche plus. Être directement dans un cercle, non, parce qu'il n'y a pas de premier élément. Il faut un peu plus de subtilité pour voir qu'on peut construire des modèles qui ne correspondent pas exactement à ce qu'on veut. Modèle qui ne correspond pas à ce qu'on veut, c'est de prendre, de démarrer avec un élément, par exemple 1, et puis de rajouter comme ça des points avec des successeurs, et puis qui vont en fait, quelque sorte, s'accélérer comme ça, se rapprocher les uns des autres, de plus en plus. Bon, ça c'est un bon modèle pour les entiers, c'est pas un problème, c'est pas la question de distance, hein. Vous pouvez tirer dessus, c'est un caoutchouc. Mais vous pouvez aussi imaginer que vous partez d'un autre point, et puis que vous faites la même démarche ici, avec des points comme ça qui s'accumulent de plus en plus, et puis ici vous continuez de cette façon-là. Alors, ce modèle-là, il a toutes les propriétés qu'on veut, il y a un seul élément qui n'a pas, je sais pas où j'avais commencé, ici par exemple, il y a un seul élément qui n'a pas de successeur, qui n'a pas d'antécédent, c'est celui-là. Tout élément a toujours un successeur unique. Chaque élément autre que le premier a un antécédent, parce qu'on peut toujours aller chercher quelqu'un d'autre par ici. Et il manque quelque chose. Et ce qui va manquer, c'est aussi le fait de pouvoir accéder à tout, d'avoir en quelque sorte, de ne pas avoir des temps qui vivent dans des espaces complètement différents, mais qu'on puisse passer d'un point à l'autre. Alors passer d'un point à l'autre, on voit bien qu'ici, il y a un petit problème. Parce que en cherchant toujours un successeur à quelqu'un, on va buter, on n'arrivera jamais de l'autre côté de la nappe. Donc ce qu'on rajoute à ce moment-là, c'est le principe d'induction, hein, c'est de dire il y a le seul ensemble qui contient 1 et qui a la propriété que dès qu'il contient un élément, il contient son suivant. C'est effectivement l'ensemble de tous les entiers. Donc il y a cette question, en quelque sorte, derrière le temps, qui n'est pas une question de continuité du temps, mais qui est une question de pouvoir accéder toujours à un autre point, de ne pas vivre dans des mondes qui sont totalement exotiques. Bon, on verra une question qui peut se poser à partir de ça en physique. Ce genre de configuration comme ça qui s'accumule, ça fait penser aussi à une autre situation temporelle, qui est le paradoxe de Zénon d'Élée, d'Achille et la tortue, qui dit ceci. Il y a la flèche, hein, c'est la même chose. Il y a Achille veut rejoindre la tortue. Donc Achille est là, puis la tortue est ici. Donc la tortue avance, comme on l'imagine, assez lentement et Achille beaucoup plus vite. Et Zénon dit, mais de toute façon, Achille ne pourra jamais rejoindre la tortue, parce que quand Achille va être à cet endroit-là, ben, en fait, à ce moment-là, la tortue sera ici. Et puis quand Achille va arriver à cet endroit-là, la tortue sera plus loin, etc. Et ils ne se rencontreront jamais. Donc ça, c'est en fait la question qu'on appellerait maintenant sommet des séries, de savoir effectivement, est-ce que en un temps. Comment dire? On peut concevoir un nombre infini d'étapes. Comment dire? On a à la fois un temps, un espace qui est fini et. C'est ça que je veux dire? Non, c'est pas comme ça que je veux le dire. Ce qu'on est en train de faire, c'est d'imaginer qu'on ne peut pas faire en un temps fini un nombre infini d'opérations. Mais en fait, on admet tout de même la continuité, on admet tout de même que des opérations peuvent être arbitrairement petites. Bon, c'est un peu là qu'est la contradiction de cet argument. Hein? On a un espace continu réductible à l'infini, mais en fait, on n'admet pas que le temps, lui, soit aussi réductible de la même façon que l'espace. Alors, on avait dit justement la question du parcours sur une droite. Le parcours sur une droite dans l'espace, c'est par exemple d'aller de Bordeaux à Paris. Quand vous allez de Bordeaux à Paris, vous pouvez décrire l'endroit où vous êtes. Tout simplement, vous regardez la borne kilométrique ou une fraction de borne kilométrique qui est autour de vous et vous dites, je suis au kilomètre 325, ça permet très bien de vous localiser. Cela dit, il n'y a pas un sens de parcours privilégié. On peut aussi bien aller de Paris à Bordeaux que d'aller de Bordeaux à Paris. Alors que dans le temps, on sait bien que ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Tu me pardonneras de ne pas parler de demain, mais de parler d'après-demain. Mais on sait bien qu'on peut aller du 26 novembre au 28 novembre de cette année et qu'on aura du mal à faire le parcours dans l'autre sens. Donc on a quand même un sentiment qu'il y a une direction privilégiée du temps. Alors, comment est-ce qu'on peut le voir? On peut le voir aussi, pour ça les films c'est intéressant. On peut le voir aussi en passant un film à l'envers. Et généralement, quand vous passez un film à l'envers, vous vous rendez compte que vous êtes en train de le passer à l'envers. Il y a tout de même, je vais faire la démonstration parce que je voudrais le voir à l'envers, je vais voir si ça marche vraiment. Il y a dans le film de Jean Cocteau, La Belle et la Bête, il y a un moment où Jean Marais s'avance dans une galerie et puis il y a des bougies qui s'allument au fur et à mesure qu'il avance. Et c'est pas si simple que ça d'allumer une bougie, c'est beaucoup plus simple de l'éteindre. Alors en fait, le film a été tourné avec Jean Marais qui recule, et au fur et à mesure, on souffle les bougies. Et ensuite, on le passe à l'envers. Et donc, on ne voit pas toujours qu'un film a été tourné à l'envers. Hein. Donc, c'est pas si simple que ça non plus. Alors, si on prend, bon, soyons un peu plus sérieux. Si, non, mais si on prend un objet dans la cinématique est simple, si on prend un pendule, par exemple, prenez un pendule et puis filmez-le. Pendant quelques oscillations, vous risquez pas de savoir si vous êtes en train de passer le film à l'endroit ou à l'envers. Hein. Ce qu'on est en train de voir ici, c'est le fait que les lois physiques de la mécanique classique, en fait, sont invariantes par échange du temps. Si un mouvement est possible dans un sens, le mouvement inverse est tout aussi possible. Il n'y a pas au niveau microscopique, si vous voulez, au niveau des lois élémentaires de la physique, vous n'avez pas de sens du temps. Il n'y a pas de flèche du temps. De ce côté-là. Alors dans la pratique, c'est pas exactement ce qui va se passer. Dans la pratique, si vous filmez assez longtemps un pendule, vous allez voir au bout d'un moment que enfin, les oscillations vont s'amortir. Vous allez avoir des oscillations de plus en plus courtes. Et bien sûr, si vous passez un film, vous voyez bien si vous êtes en train d'avoir des oscillations d'amplitude qui diminue, ou au contraire des oscillations dont l'amplitude augmente. Donc vous saurez dans quel sens vous êtes en train de le voir. De la même façon, si vous observez la trajectoire d'une balle, par exemple, vous savez bien que vous n'allez pas observer exactement une parabole, mais que vous allez observer quelque chose, une courbe en cloche, avec une pente à l'arrivée qui est beaucoup plus proche de la verticale que la pente de départ. Alors en fait, dans ces deux exemples, vous avez des phénomènes dissipatifs. Vous avez des frottements, vous avez de l'énergie qui va se disperser. Et une explication de l'irréversibilité en physique, au moins en physique macroscopique, a été élaborée au milieu du 19e siècle, un peu avant, un peu après, dans le cadre de la thermodynamique. Le premier principe affirme l'équivalence du travail et de la chaleur et la conservation, et sa conservation, la conservation de l'énergie. Et le second principe de Carnot-Clausius affirme en fait qu'il y a une certaine quantité qu'on peut définir à l'aide de la variation de l'énergie et de la température d'un système, qu'on appelle son entropie, et qui va être systématiquement croissante, qui ne peut pas être décroissante. En termes suggestifs, si vous voulez, mais peut-être un peu abusifs, ça implique que la transformation de mouvement en chaleur peut se faire spontanément, mais qu'on n'observera pas spontanément la transformation inverse. Et en 1877, donc Boltzmann définit en fait l'entropie, lui, à l'aide de la physique statistique. Alors, je voudrais juste dire un mot rapide sur le côté statistique et probabilité, parce que c'est pas exactement la même chose. Et essayer de voir d'un peu plus près comment raisonne Boltzmann. Donc une situation probabiliste, en fait, c'est une situation dans laquelle vous observez un phénomène qui peut se présenter sous différents aspects. Vous êtes face à une expérience dont le résultat peut appartenir à une certaine famille de résultats possibles, mais il n'y a pas un seul résultat bien déterminé. Alors, la raison qui conduit à cette multiplicité de résultats possibles, c'est pas quelque chose qui intéresse fondamentalement le mathématicien, c'est plutôt la situation dans laquelle on a plusieurs résultats possibles. Ça peut être aussi bien un système déterministe dans lequel, qui est beaucoup trop complexe pour qu'on puisse le suivre. Exemple, lancer un dé, battre des cartes, faire des opérations de ce genre-là. Ça peut être, au contraire, des situations plus fondamentalement aléatoires. Observer une particule quantique, par exemple. Vous n'allez observer qu'un état de cette particule quantique. Vous allez casser, en quelque sorte, la richesse de la structure à partir du moment où vous l'observez. Donc ça, c'est l'aspect qualitatif. Et puis, il y a un aspect quantitatif qui est simplement une mesure. Essentiellement, ce que l'on cherche à faire, c'est normaliser la mesure en donnant une somme des mesures des différents résultats qui est égale à 1. Restons dans le cadre où les résultats sont discrets, on peut faire le même genre de choses avec des résultats continus, c'est un peu plus compliqué, mais fondamentalement, ça ne change pas grand-chose. Bon, maintenant, pour attribuer cette mesure, on peut le faire de... Essentiellement, il y a deux présentations de cette mesure de probabilité. On peut la mesurer en termes subjectifs, en disant par exemple qu'est-ce que l'on est prêt à parier par rapport à un résultat donné, quelle mise on est prêt à mettre en fonction du résultat que l'on attend, en fonction du gain que l'on attend. Une autre présentation, c'est la présentation fréquentiste, c'est en général celle qui est la plus utilisée, au moins en France. C'est de regarder les fréquences d'apparition d'un phénomène et d'essayer de définir une fréquence limite, de voir que, expérimentalement, il semble qu'il y ait une fréquence limite, et puis d'essayer de mesurer cette fréquence limite. Alors, le second abord semble préférable, semble plus scientifique. Ça peut poser quelques problèmes. Il fait également référence au fait que l'on puisse effectuer une infinité de fois une opération, ou au moins un grand nombre de fois. Ça peut poser quelques difficultés. L'aspect subjectif peut être, lui, beaucoup plus lié à des expériences virtuelles, en quelque sorte, des expériences intellectuelles, et être finalement beaucoup moins subjectif que je n'ai voulu le dire d'emblée. Bon, la question statistique, elle, est tout à fait autre. La question statistique, c'est beaucoup plus d'utiliser l'expérience pour essayer de dire quelque chose sur un modèle probabiliste. On a une expérience probabiliste, et ce que l'on veut faire, c'est réaliser en quelque sorte cette expérience, la réaliser éventuellement plusieurs fois, pour pouvoir dire quelque chose sur le modèle probabiliste sous-jacent. Alors, je vais donner un exemple avec ce qu'on appelle un test d'hypothèse. On lance une pièce. On a toute raison de penser que la personne qui lance la pièce est honnête et la lancera de façon suffisamment aléatoire. Dans la pratique, ce n'est pas forcément si simple que ça. D'autre part, que la pièce est une honnête pièce bien équilibrée, c'est-à-dire que dans l'expérience que l'on va faire, obtenir pile ou obtenir face aura la même probabilité, aura une probabilité 1,5, puisqu'on a deux événements et puis qu'on veut que la somme des probabilités fasse 1. Alors, donc on va faire cette hypothèse que on lance une pièce une pièce honnête, de façon honnête, et puis on va observer 100 fois le résultat. Et on va se poser la question, après avoir observé 100 fois le résultat, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on conserve notre hypothèse que la pièce est équilibrée, elle est lancée honnête, ou bien est-ce qu'on rejette cette hypothèse ? Alors, ce que l'on va faire, il y a deux aspects. Un aspect, c'est de dire, de toute façon, on va faire une expérience, c'est bien gentil. Qu'est-ce qu'on va voir à la suite de ça ? On va voir une suite de piles et de faces, une suite de 100 piles et de faces. Et de toute façon, a priori, surtout si on part de l'hypothèse que la pièce est équilibrée, a priori, chaque suite que l'on peut obtenir a la même probabilité d'arriver, et c'est une probabilité excessivement faible. Alors ça, c'est le premier point, c'est pas très encourageant. D'un autre côté, on a quand même le sentiment que si on fait une expérience 100 fois, on doit acquérir une certaine information sur ce qui se passe. Alors comment est-ce qu'on gère ça ? D'abord, la première chose, c'est de le gérer avec un minimum de modestie et de dire on ne va rien pouvoir démontrer. Donc on accepte en quelque sorte de se tromper, on ne pourra pas définir ce que l'on veut. Il est tout à fait clair que si on refuse de se tromper, ben, il faut accepter toutes les configurations, il n'y a pas de configuration à rejeter plutôt qu'une autre. Alors maintenant, à partir du moment où on dit on accepte effectivement de se tromper, la question c'est quand même d'essayer de se dire, on peut peut-être essayer de se tromper, pas trop, et donc on va définir en fait un risque qu'on est prêt à prendre. En quelque sorte, plus grand est le risque que l'on est prêt à prendre, plus large doit être la famille des observations que l'on est prêt à considérer. Donc on va prendre un risque, on va dire par exemple, je fais cette hypothèse-là, ce que j'essaye de voir, c'est de définir une famille de possibles assez large, telle que, disons 95 fois sur 100, on ait un résultat qui soit dans cette famille de possibles. Alors, famille de possibles avec 95%, ça laisse encore énormément de possibilités. Bon, on peut discuter de ce choix. Pour prendre quelque chose qui est relativement naturel, c'est simplement de regarder le nombre de fois où on voit apparaître pile et face. C'est quand même quelque chose qu'on fait de façon assez spontanée. On va regarder le nombre de fois où apparaissent pile et face en se disant, maintenant, définissons simplement une valeur critique qui fait que si on observe pile ou face plus que tant de fois ou moins que tant de fois, à ce moment-là, on dira, ben non, on n'a pas envie de conserver l'hypothèse que notre pièce est équilibrée, et sinon on acceptera l'hypothèse si au contraire on a une valeur qui est relativement standard. Bon, alors du coup ensuite on est maintenant en train de faire des probabilités, de mesurer le fait que si on lance la pièce comme on l'a dit, observer pile et face, ou observer pile disons tout simplement entre 40 et 60 fois, c'est quelque chose qui se produira 95 fois sur 100. Ben, on dit très bien, on fait notre expérience, on observe ce qui se passe, et puis si on observe, on a décidé maintenant, si on observe un nombre de piles qui est entre 40 et 60, on gardera notre hypothèse des Q-probabilités, que la pièce est honnête, et puis sinon on la jettera au panier. Bon, donc il y a quand même une chose dans toute cette partie statistique, il y a toujours une question d'accepter un risque de se tromper, de savoir qu'on ne démontre rien de cette façon-là, et fondamentalement, on ne peut rien démontrer, puisque tout résultat est possible. Alors, bon, j'ai été un peu long là-dessus, j'en suis désolé, je vais revenir à Boltzmann. Alors, l'expérience que fait Boltzmann, que peut proposer, c'est celle-ci, je vais là encore une fois simplifier, je vous dirai quand. On prend deux récipients, éventuellement du même volume, et puis on met une cloison entre eux, et puis ici on met des particules de gaz, si possible pas au zéro absolu, au moment où elles bougent un petit peu, et puis on enlève la cloison, et on regarde ce qui se passe. Alors, quand on enlève la cloison, assez rapidement, on va constater qu'il y a du gaz, en fait, dans les deux récipients. Bien. Et en plus, on ne s'attend pas vraiment à ce que, d'un seul coup, on voit le gaz partir, se regrouper dans un seul récipient, le premier ou le second, la partie gauche ou la partie droite de notre récipient. On n'imagine pas vraiment ça. Bon. Alors, on est content. On a mis le doigt sur un phénomène fondamentalement irréversible. Ça, c'est un phénomène qui a une flèche temporelle. On est content. Alors si on regarde l'analyse qui en est faite, l'analyse de physique statistique qui en est faite, c'est la suivante. On calcule la probabilité que toutes les molécules d'un gaz soient d'un seul côté. Bon, elle est très très faible, c'est très très proche de zéro. Et puis on regarde a priori la probabilité que les molécules de gaz soient réparties à peu près harmonieusement entre les deux parties du récipient, et ça c'est quelque chose qui a une probabilité très très forte, c'est-à-dire vraiment très très proche de 1, 0,99999, et vous pouvez rajouter comme ça beaucoup de 9. Bon, donc en quelque sorte, ce que l'on peut dire, c'est que l'évolution, on est parti de l'évolution d'un phénomène complexe, ça le conduit, si on part d'états improbables, en fait, ça le conduit vers des états qui sont probables. Bien. Alors, d'abord, j'ai beaucoup simplifié l'argument de Boltzmann. J'ai pris en compte que la position des particules, il faudrait prendre aussi en compte leur vitesse, bien sûr, qui est d'ailleurs liée, qui s'interprète en termes macroscopiques de température, c'est très bien. Et c'est comme ça qu'on peut établir, qu'il a établi une définition, en quelque sorte, probabiliste de l'entropie, hein, qui a retrouvé le second principe de Carnot par ce raisonnement statistique. Bon, je mentionne juste, je vais revenir sur l'analyse de ce phénomène-là, je mentionne ici que ces idées, c'est également des idées qui sont à la base de la théorie de l'information, telle qu'elle a été présentée par Shannon. Un message est d'autant plus signifiant qu'il est peu probable, en quelque sorte, et la quantité d'informations qu'il véhicule ne peut que se dégrader lorsqu'on transmet ce message, et si on ne rajoute pas, bien sûr, de l'information en même temps. Alors, je vais prendre un autre exemple que celui-là. C'est celui-ci. Sur un stade, vous avez une trentaine, une quarantaine de coureurs qui sont situés au même endroit et puis qui vont partir en même temps, chacun avec sa vitesse. Je suppose qu'ils peuvent courir à une vitesse constante pendant une heure ou deux, quelque chose comme ça. Et puis, chacun avec ses propres compétences, et vous les laissez partir. Et puis, quelqu'un arrive au bout d'une demi-heure et voit les coureurs. Ça va se répartir à peu près bien le long du stade. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous exactement aux mêmes distances. Mais par exemple, si vous coupez en quatre et puis que vous regardez le nombre de coureurs que vous avez dans chacun des quarts du stade, vous allez trouver quelque chose qui est vraiment une répartition tout à fait due au hasard. Donc pendant cette demi-heure, ce qui s'est passé, c'est que vous avez vu l'entropie qui s'est accrue, vous êtes passé en quelque sorte d'une configuration peu probable à une configuration probable. Alors là, vous faites la chose suivante, vous tapez dans vos mains et vous dites « tout le monde fait demi-tour ». Je crois que vous imaginez ce qui se passe, c'est que les gens continuent à courir, c'est à peu près le même genre de truc, l'entropie va encore s'accroître, si ce n'est qu'au bout d'une demi-heure, tout le monde va se retrouver sur la ligne de départ. Alors, bon, on peut dire, oui, ça c'est une situation dans laquelle, après tout, on est proche des lois élémentaires, il n'y a pas beaucoup de particules qui sont en jeu, et donc on est bien dans une situation qui est réversible, c'est assez normal. Alors ce qu'ont fait les physiciens, c'est qu'ils ont fait sur ce principe-là des expériences qui mettent en jeu des nombres de particules bien plus considérables, on est pratiquement au niveau macroscopique dans ce genre d'expérience, ce qu'on appelle les échos de spin, et ça se passe comme ça. Vous prenez des particules qui sont susceptibles de s'orienter quand elles sont soumises à un certain champ magnétique. Vous mettez un champ magnétique assez intense, et claque, vos particules s'orientent bien, elles sont toutes bien parallèles. Bon, c'est la configuration qui est ici. Et puis, quand vous coupez le champ magnétique, au bout d'un moment, les choses vont se dégrader, mais ça met un certain temps, disons, de l'ordre du dixième de seconde. Alors, pendant ce dixième de seconde, vous avez le droit de vous amuser et de faire des expériences marrantes. Alors, ce que vous faites, vous mettez un champ magnétique, qui n'est pas tout à fait uniforme, et puis ce que vous observez, au bout déjà d'un millième de seconde, vous observez une situation complètement chaotique. Les moments magnétiques vont s'organiser, vont s'orienter de façon complètement aléatoire. Et vous faites exactement l'opération de taper dans vos doigts, qui est en fait de renverser dans vos mains, qui est de renverser le sens du champ magnétique. Et un millième de seconde après, une milliseconde après, vous revoyez en fait toutes vos particules qui sont bien orientées. Bon. Alors, ce qui se passe, si vous voulez, quand on a fait ça, je voudrais dire trois choses. D'abord, dans l'interprétation probabiliste, on ne voit pas d'explication, en fait, on ne voit pas à quel moment on a effectivement remplacé des lois physiques microscopiques réversibles dans le temps par des lois qui deviennent irréversibles. On ne voit pas où ça s'est passé, on n'a rajouté aucun concept pour l'expliquer. Bon, donc c'est un peu, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, je dis simplement que cette interprétation probabiliste ne le met pas en évidence. En second lieu, on peut peut-être invoquer aussi le théorème de récurrence de Poincaré, qui montre qu'il faut au moins être prudent avec ce genre de démarche, puisqu'il vous dit que si vous prenez qu'on appelle un système dynamique, c'est-à-dire le genre de particules qui évoluent comme ça, si vous regardez localement ce qui se passe, eh bien, localement, ce qui va se passer, c'est que si vous avez une certaine configuration à un moment donné, il y aura toujours un moment où vous pourrez trouver une configuration arbitrairement proche de celle-ci. Alors, ce qui se passe, c'est que, donc là, on a l'impression de dire on est en train de violer l'augmentation de l'entropie. Dans la pratique, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Si vous avez une roue crevée, vous n'allez pas rester à côté de votre vélo en attendant que la roue se regonfle toute seule. Oui, Poincaré vous dit que ça se fera un jour, mais enfin, les temps mis en jeu sont tout à fait énormes. Bon, mais enfin, ça prouve tout de même qu'il faut être assez prudent avec ce genre de situation. Et en dernier lieu, c'est plutôt la question de dire on est passé à une situation très probable. En fait, ça ne veut rien dire. Et c'est un peu là où on dit on est sur une situation très probable. Cette situation, elle n'est pas plus probable que celle-là. La meilleure preuve, d'ailleurs, c'est qu'elle a conservé exactement toute l'information qu'il y avait avant. Donc, dans cette expérience ici, quand on dit très bien, on ouvre le récipient et on regarde ce qui se passe. Ce que l'on voit arriver, c'est pas n'importe quelle situation. Ça fait partie de toutes les situations, de tout ce qui peut se produire dans les quelques instants après qu'on ait levé la barrière. Et ça, c'est un ensemble qui est beaucoup plus petit que l'ensemble de toutes les configurations. Et finalement, si ça marche pour l'entropie, c'est plutôt le fait qu'on a eu un peu de chance d'être dans une situation où ce que l'on a observé, bien qu'étant pratiquement de mesure nulle par rapport à tout l'espace, a tout de même un comportement qui est le comportement générique. C'est plus ça le phénomène qui est derrière. Donc, en quelque sorte, dire on ne peut pas conserver l'information, on n'en sait rien du tout, et il y a plutôt, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il y a plutôt des contre-exemples qui vous disent oui, on peut contrôler, on peut conserver cette information, parfois parce qu'elle est relativement simple ici, ça c'est... Mais dans le cas des verres des échos de spin, c'est une information qui est quand même très, très complexe, hein, que l'on conserve. Bon, en quelque sorte, la question est de savoir, on ne voit pas comment ici on peut faire opérer la même chose qui est de taper dans les mains pour retourner la machine. Le fait qu'on ne le voit pas ne dit pas nécessairement que c'est pas possible. Hein. C'est un peu de savoir qui doit faire la preuve. Est-ce que c'est au procureur de faire la preuve de la culpabilité ou à l'accusé d'apporter la preuve de son innocence. Bon, voilà pour cette critique qui me moi, me convainc pas. En tout cas, je ne vois pas l'argument probabiliste comme étant un argument fort en faveur de la flèche temporelle. Je voudrais revenir au propos initial. J'avais illustré deux aspects des rapports entre temps et objet mathématique. L'un qui était une direction, c'était s'inspirer du temps pour inventer des objets mathématiques, et l'autre employer des objets mathématiques pour modéliser le temps. Alors, en fait, si on remplace le mot temps par le mot espace, on se rend compte que c'est une activité à laquelle, des activités auxquelles s'est livré le mathématicien depuis bien plus longtemps, depuis 2000 ans de plus pratiquement, hein, s'inspirer de l'espace pour inventer des objets mathématiques ou employer des objets mathématiques pour modéliser l'espace. On en revient déjà à Euclide et, au minimum. Alors, quelques mots sur les nouvelles géométries, et puis on verra ensuite en quoi elles peuvent nous aider pour le temps. Il y a eu d'abord, ça dépend ce que l'on veut mettre, mais enfin, il y a quelques points que je voudrais dire. L'algébrisation de la géométrie par Descartes, qui a conduit d'une part à réduire les concepts fondamentaux, ça c'est une bonne application, si vous voulez, du rasoir d'Occam, et en même temps, ça a permis d'enrichir la famille des espaces concevables à partir du moment où on dit un espace de dimension 3, en quelque sorte, une fois qu'on a mis un repère, on le voit simplement comme un triplet de nombres. Pourquoi ne pas imaginer tout aussi bien un quadruplet de nombres, c'est-à-dire des espaces de dimension 4, qu'on aura beaucoup de mal à imaginer en quelque sorte géométriquement, mais qu'on peut facilement imaginer à partir du moment où on les a généralisés sur le plan algébrique, où on les a algébrisés. Bon, il y a également tous les espaces courbes, les variétés des espaces qui se comportent localement comme des espaces linéaires, en fait, qui ont cette courbure. Une question importante, c'est aussi la question de savoir quel est le comportement global, et les géomètres différentiels y ont beaucoup réfléchi, quel est le comportement, quand on a accès simplement à un comportement local, comment est-ce qu'on peut savoir quel est le comportement global d'un être géométrique? C'est une opération à laquelle qu'on ne fait pas, hein, dans la pratique. Dans la pratique, on vit dans deux mondes complètement différents. Ce que l'on vit sur Terre, essentiellement, on vit sur un plan. Et puis, si on nous demande ce que c'est que la Terre, on n'a pas envie de faire ricaner les copains, alors on dit, oui, la Terre, c'est une belle sphère. Mais en fait, on vit les choses de façon assez séparée, c'est relativement rare, si effectivement, on se déplace assez loin, si on est en mer et qu'on observe effectivement la courbure de la Terre, la plupart du temps, on a vraiment le sentiment qu'on vit sur quelque chose de tout à fait plat et on distingue les deux mondes. Et donc, c'est pas simple, c'est un problème compliqué de savoir, d'après la connaissance même locale partout, comment est-ce qu'on peut dire qu'une surface est fermée, comment est-ce qu'on peut dire qu'on est sur une sphère plutôt que de dire qu'on est sur un pneu, par exemple. Bon, alors effectivement, on peut l'imaginer, par exemple, en disant si on est sur une sphère, on a toujours une courbure qui va dans le même sens. Mais on peut aussi être sur une sphère ou ce qui peut ressembler à une sphère sans avoir une courbure qui va dans le même sens. Imaginez les montagnes, puis vous passez des cols. C'est-à-dire que dans une direction, vous avez une courbure qui est tournée dans un sens, et puis dans une autre direction, vous avez une courbure qui est tournée dans un autre sens. Alors, c'est clair, en tout cas, que si vous ne rencontrez... Enfin, c'est clair. C'est justement des choses que peuvent montrer les géomètres, que si on n'a que des courbures qui sont positives, ben on ne peut pas être sur un pneu. Si on est sur un pneu, vous le déformez comme vous voulez, il y aura quand même un moment où vous aurez, hein, comme la gorge à l'intérieur du pneu, où vous aurez des courbures qui évoluent de façon différente. Vous ne pouvez pas avoir une surface fermée avec un trou, en quelque sorte, mais tout le temps une courbure positive. Voilà le genre de comportement, sous la forme la plus simple, de comportement géométrique où l'analyse, si vous voulez, de ce qui se passe localement peut vous aider à déterminer quel est le comportement global. Question intéressante quand même, est-ce que l'espace dans lequel on vit, est-ce qu'il est fermé, est-ce qu'il est fini, à quoi il peut ressembler, c'est quand même des questions assez intéressantes aussi. Je vais en arriver au temps et à demain, quel temps, en quelque sorte. Bon. Donc, les astrophysiciens nous disent que l'univers est en expansion. Alors ça se voit en constatant un décalage de la fréquence de la lumière qui nous parviennent de galaxies lointaines. C'est un peu le même phénomène que celui qu'on expérimente à chaque fois qu'on est croisé par une ambulance, par exemple, où vous avez une intensité sonore, vous avez un certain son de l'ambulance, et quand cette ambulance vous croise, vous avez une chute du ton qui est tout à fait sensible, hein. Vous avez un son qui est beaucoup plus bas, le son que vous entendez de l'ambulance une fois qu'elle vous a passé, beaucoup plus bas que quand il vous est arrivé. C'est tout simplement le fait qu'au fur et à mesure que l'ambulance émet les sons, hein, qui sont une vibration que vous avez avec une certaine fréquence, la même fréquence, comme elle se rapproche en même temps de vous, finalement, vous avez un raccourcissement en quelque sorte, de la fréquence que vous percevez. On perçoit un peu plus vite la fréquence, et donc on a un son plus élevé. Au contraire, quand elle s'en éloigne, on a un son plus bas, et c'est quelque chose qui est tout à fait perceptible. Alors vous avez la même chose en regardant la lumière qui va se décaler, au contraire, plutôt vers le rouge, vers les fréquences faibles, si quelque chose s'éloigne, et c'est en observant ce décalage vers le rouge. On peut se demander pourquoi est-ce que c'est vraiment un décalage vers le rouge, pourquoi est-ce que c'est pas simplement une lumière plus rouge qui est émise. C'est une question de retrouver en fait des fréquences qui sont des fréquences typiques émises par certains corps, par exemple par l'hydrogène qui est présent dans les différents corps, et on retrouve exactement cette forme de fréquence mais décalée. Donc on pense que c'est vraiment un décalage et que c'est pas simplement une autre couleur qui est arrivée. Bon, donc en tout cas, tout c'est en expansion. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est faire une extrapolation dans le passé. Extrapolation dans le passé, vous avez tous les indices qui convergent vers une grande concentration de l'univers il y a quelque chose comme 15 milliards d'années, ce qu'on appelle le Big Bang. La version, si j'ose dire, classique, faut voir que c'est en physique relativiste, hein, de toute façon que se posent ces questions-là. La version classique, c'est celle d'une singularité qu'il y aurait, c'est-à-dire en fait d'une concentration, sinon infinie, d'énergie, au moins suffisamment forte pour que les lois de la physique n'est plus court. Donc c'est comme ça que le voient les physiciens. Donc il y a une concentration de l'énergie trop dense pour que la physique que nous connaissons s'applique. Alors on a envie aussi de jouer au gamin curieux et de dire, et avant le Big Bang, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors là, c'est simple, les physiciens bottent en touche en disant, c'est très simple, de toute façon, tout ce que l'on peut faire, c'est regarder le temps qui peut... Tout ce qu'on peut faire, c'est regarder le temps qui est ici. Parce qu'on y a accès, parce qu'on peut extrapoler toujours tant que les lois de la physique s'appliquent. À partir du moment où il y a quelque chose qui fait que les lois de la physique s'appliquent plus, ça n'a strictement aucun sens d'essayer de savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Donc ça, c'est cette situation-là. Il y a également l'extrapolation vers le futur, je reviendrai sur cette chose-là. L'extrapolation dans le futur, l'univers est en expansion, mais est-ce que cette expansion est amenée à se prolonger? Quel cas on aurait une sorte de temps infini? Est-ce que, au contraire, cette expansion va s'arrêter, éventuellement va se retourner? Auquel cas, on aurait un phénomène du genre Big Bang, mais à l'envers, vers lequel on fonce, qu'on appelle le Big Crunch, Big Crunch. Et à ce moment-là, le temps serait également, en quelque sorte, borné. Le temps auquel on peut avoir accès par la physique que l'on connaît serait également borné vers l'avenir. À ma connaissance, il n'y a pas d'argument, les physiciens ne disposent pas d'argument qui soit, sinon probant, mais au moins peuvent suggérer une hypothèse plutôt qu'une autre. Donc, de ce côté-là, le demain est très ouvert. Et dans le domaine microscopique, j'ai cru comprendre également que la situation est assez similaire. La physique actuelle semble ne pas pouvoir concevoir des durées qui soient plus petites que 10 puissance moins 35 secondes. Donc ça n'a pas de sens, même si on peut écrire comme ça formellement 10 puissance moins 50 secondes. 10 puissance moins 35, ça veut dire un 0 avec 35 zéros et puis un 1 derrière en nombre de secondes. Ça n'en fait pas beaucoup, mais enfin, il y a une limite à ce que la physique relativiste, telle qu'on la connaît, peut concevoir comme temps. Alors, dans les directions qu'explorent actuellement les physiciens, il y a plusieurs directions. Il y a des directions qui sont de regarder des espaces-temps avec un nombre de dimensions beaucoup plus élevé. Si j'ai bien compris, il y a des dimensions magiques, il ne peut pas se passer n'importe quoi, et c'est essentiellement des modèles avec 10 dimensions ou 26 dimensions. Et la question qui se pose, c'est quand même pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas, ces dimensions, pourquoi est-ce qu'on ne les sent pas? Les hypothèses qui sont données sont différentes, mais toutes sont sur le fait qu'en fait, elles sont excessivement faibles. Alors, il y a deux façons d'avoir quelque chose de faible. Ça peut être, en fait, des dimensions qui sont des dimensions, en fait, des espaces fermés, comme des boucles, en quelque sorte. Au lieu de le voir comme des droites, ce sont des boucles, des petites boucles. Ou bien, c'est tout simplement le fait que, si on l'imagine, en quelque sorte, par rapport à un plan, dans la troisième dimension, on ne peut pas s'en écarter beaucoup. C'est ce qu'on appelle des branes, du mot membrane. On doit être très proche de... Il y a des forces, en quelque sorte, d'attraction qui font qu'on ne peut pas s'en écarter beaucoup, mais on peut s'en écarter un peu, avec toujours des dimensions de l'ordre de 10 puissance moins 35 cm, mètres, des choses comme ça. Et ce qui est plus troublant, c'est que les physiciens n'excluent pas qu'une des dimensions supplémentaires soit en fait une dimension de nature temporelle. Alors je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais visiblement ça leur pose en tout cas des tas de questions. Ça pourrait être de nature en fait à remettre en cause le principe de causalité. Donc c'est assez compliqué cette chose-là. Alors est-ce que ce sera la revanche d'Héraclite en quelque sorte? Est-ce que c'est... Bon. Alors, je voudrais terminer par un autre point qu'on appelle les géométries non commutatives, et pour vous donner une idée du genre de construction qui peuvent être faites. De la même façon qu'on avait essayé d'analyser la situation probabiliste et de voir simplement les sorties de cartes, des choses comme ça, avec les fonctions qu'on est capable de définir dessus, avec les mises, en quelque sorte, que l'on était capable de définir, on peut, et ça c'est l'aspect géométrie algébrique, on peut également, en quelque sorte, associer à un brave objet géométrique, prenons des objets géométriques de tous les jours, tels qu'on les connaît bien, avec des points et des tas de choses comme ça, on peut regarder les fonctions qui sont définies sur ces objets. À tout point de l'objet, on fait correspondre une valeur. Donc ça, c'est une brave fonction. Et puis, on sait faire la somme de deux fonctions, on sait faire le produit de deux fonctions, on sait faire des choses comme ça, ça a des tas de structures intéressantes. Et puis, parmi ces fonctions, il y a toutes les fonctions qui vont s'annuler en un point donné. Alors, toutes les fonctions qui s'annulent en un point donné, elles ont des propriétés algébriques intéressantes, qui sont relativement simples. Vous pouvez faire la somme, le produit, vous avez toujours la même propriété, mais vous pouvez aussi faire le produit de n'importe quelle fonction avec une fonction qui s'annule en un point donné, et c'est encore une fonction qui va s'annuler au point donné. Donc vous avez des structures algébriques derrière ça, et ensuite ce que vous faites, ce qu'on appelle la géométrie algébrique, c'est de retourner complètement la machinerie. Vous dites finalement, je ne regarde pas mon espace, je regarde les fonctions que je peux définir dessus, et c'est à partir de l'étude des propriétés algébriques, ou analytico-algébriques, des fonctions que je peux définir sur cet espace, que je vais rendre compte des différentes propriétés de mon espace. Par exemple, mon espace sera fini si les fonctions que je définis doivent être des fonctions périodiques. Ça peut être une façon de régler ce problème de la finitude de l'espace. Alors, c'est quelque chose qui est relativement classique, si j'ose dire. Et ce que l'on peut faire maintenant, et ce qu'a introduit Alain Cohn, c'est la chose suivante, c'est de dire, finalement, les fonctions qu'on a construites, c'est des braves fonctions, ça donne une structure multiplicative qui est commutative quand vous faites le produit de deux nombres, en quelque sorte, le produit de deux nombres, que vous le preniez dans un sens ou dans l'autre, ça va vous donner le même résultat. C'est pour ça qu'on a parlé d'algèbre commutative derrière ça. Mais on connaît aussi des éléments algébriques qui ne commutent pas. Par exemple, des opérations géométriques ou des opérations du genre ajouter 2 et multiplier par 25. Ce ne sont pas des opérations, c'est des opérations relativement simples à faire sur des nombres réels, sur des nombres entiers. Si vous commencez par ajouter 5 et puis par ajouter 2 et par multiplier par 25, vous aurez en fait ajouté 50, vous multipliez par 25 et vous ajoutez 50. Dans l'autre sens, vous allez simplement multiplier par 25 et puis ajouter 2. Et alors, ce que l'on peut faire, c'est prendre du coup c'est des opérateurs, des choses de ce genre-là qui ne commutent pas, mais qui ont quand même des propriétés algébriques assez sympathiques, et puis partir de ces propriétés algébriques pour dire, mais en fait, essayons d'imaginer que ce sont des opérateurs, en quelque sorte, définis sur un espèce de substrat. Et c'est sur ce substrat où on dit, ben, finalement, ça a des tas de propriétés, on peut définir dessus des variétés, on peut faire des choses qui ressemblent beaucoup à de la géométrie. C'est ça qu'on appelle de la géométrie non commutative. Avec un certain nombre de propriétés qui sont assez intéressantes pour les physiciens. En particulier, ça implique que on ne peut pas définir de distance arbitrairement faible. Alors ça, c'est plutôt sympathique. Visiblement, les physiciens, d'après ce que j'ai cru comprendre, sont assez contents de ne pas pouvoir définir des distances arbitrairement faibles. Donc, ils trouvent là un modèle qui est relativement agréable. Et le genre de propriété qu'on pourrait avoir, c'est des propriétés d'avoir justement un Big Bang, ou du moins de retrouver toutes les propriétés de l'immédiat après Big Bang, et puis même de ce qui se passe 15 milliards d'années après, mais sans avoir besoin de mettre une singularité, en fait, sans avoir besoin de revenir toujours à un point, justement, d'avoir quelque chose d'un peu plus large. Donc, il y aurait peut-être un Big Bang sans que ce soit une singularité. Bon, alors, je ne sais pas si ça, c'est une bonne nouvelle, mais de toute façon, je crois que je vais m'arrêter là. J'ai largement abusé de votre patience. Merci.